Merci et merci à vous et à professeur Compagnon pour l'invitation. Merci aussi à mesdames Surprenant et l'OEG pour leur organisation fabuleuse. Cette occasion de vous parler aujourd'hui de mes recherches sur l'art vétoisie m'est vraiment particulièrement précieuse parce que nous sommes unis, ici réunis à la prestigieuse institution que l'OEG lui-même considérait son refuge intellectuel. Et le 7 mars 1908, lorsqu'il se voit une fois de plus condamné, maintenant frappé de l'excommunication vitandus et donc sans perspective aucune d'une nouvelle réconciliation avec l'Église, à ce moment-là, il vit déjà retiré dans le calme de sa région champenoise natale. Il a à ce moment-là 51 ans. Et il est prêt à y passer les dernières années d'une vie qu'il pense être brève. L'OEG se réalise très bien que son passé de prêtre catholique pourrait lui interdire d'obtenir une des chaires dédiées à la science laïque des religions, malgré le respect dont jouissaient ses recherches historico-critiques du christianisme et du judaïsme. Mais il y a deux autres facteurs qui compliquent son rêve d'une vraie intégration dans cette science laïque. Le premier, c'est qu'il avait brûlé lui-même ses ponts à la cinquième de l'école pratique. En 1904, une année de graves problèmes ecclésiastiques et condamnation de plusieurs de ses ouvrages, il y avait quitté sa position de conférencier libre pour apaiser l'Église. Et nous savons par sa correspondance que plusieurs collègues de la cinquième qu'il avait jusque-là soutenu, par exemple Maurice Verne, lui reprochaient cette démarche, bien qu'elle fût camouflée sous le prétexte d'une santé faible. Et en deuxième lieu, il y avait le fait que la chaire de l'histoire des religions au Collège de France avait été assigné à Jean Réville à peine un an avant, donc une nouvelle position vacante était assez improbable. Et or, c'est exactement ce qui arrive le 6 mai 1908, jour de la mort inopinée de Jean Réville, qui laisse ainsi vacante deux positions intéressantes pour l'OEG, c'est-à-dire la chaire d'histoire de religion au collège, mais aussi la chaire des origines chrétiennes à la cinquième. Jamais vraiment un modèle d'humilité, l'OEG anticipe la possibilité d'être invité pour ces deux postes. Et dans ses mémoires, il explique que l'école pratique, c'est vraiment hors de question. Pour des raisons multiples, il mentionne par exemple la charge de travail assez grande pour les cours, mais il omet la raison la plus importante. C'est sa rancune face à son élection ratée en 1901 pour la chaire d'Auguste Sabatier. La possibilité du collège, par contre, lui semble plus envisageable, mais avec Mauss, le grand favori des milieux progressistes et le candidat élu en seconde ligne à peine un an avant, l'OEG n'avait pas vraiment d'espoir. Et pourtant, ce ne fut pas Mauss, ni même le favori du camp conservateur, Georges Foucart, qui fut nommé à la chaire symbolique. Le résultat des élections, d'ailleurs très tendues, produit à droite et à gauche une véritable choc d'onde. Pour les conservateurs, il faut bien le souligner, l'OEG était un moderniste dangereux. Pour le camp adverse, il avait l'étiquette d'un affreux clérical, pour utiliser les mots de Salomon Reinach. Quelles étaient les raisons profondes du camp l'OEG de cette élection inattendue? Fut-elle le résultat d'une lacune méthodologique provoquée par l'antagonisme positiviste, on vient de l'évoquer, contre Mauss? Il est à noter que dans sa leçon d'ouverture, l'OEG se proclamait explicitement ouvert à enrichir sa méthode historique en explorant toutes les autres méthodes alors en usage, sociologique, anthropologique, philologique et d'autres. mais sans adhérer exclusivement à aucune. Donc dans ce qui suit, je vais me plonger avec vous dans la correspondance vraiment très riche de Loisy et de ses partisans principaux que j'ai dépouillés déjà un peu pour la monographie qui vient de sortir. Les résultats vont compléter les études de Pierre Burger, Pierre-Eugène Leroy et Raphaël Farah-Cobentien qui ont bien souligné déjà quelques enjeux, par exemple l'enjeu de l'anticléricalisme. D'une part, cette analyse des lettres nous fera découvrir qu'il y avait d'autres enjeux. Et d'autre part, elle nous montrera que la nomination de Loisy fut le résultat d'une campagne stratégique menée comme une vraie opération de guerre et dirigée dans les coulisses par un réseau politico-académique influent. Et ce réseau semble avoir été moins partisan de Loisy qu'un ennemi féroce de Mauss. Avant d'entamer cette analyse épistolaire, peut-être quelques points de repère utiles. D'abord, les principaux rivaux de Loisy. Je vais passer assez vite. On avait Georges Foucart, égyptologue, qui était surtout connu pour sa thèse que la religion égyptienne devait servir comme perspective comparative pour toute recherche sur l'histoire des religions. On sait le lien fort entre père et fils Foucart, qui est caractérisé ici par Loisy lui-même. C'est un dessin que j'ai trouvé dans les archives de Loisy, peu connu à la Sorbonne, avec une petite phrase en latin très mal lisible où il dit qu'il y a un lien entre tout ce qui sort et culo de Georges Foucart et le ventre du père qui est en bas. Jules Toutain, spécialiste en religion méditerranéenne, on peut le considérer comme le candidat peut-être le plus neutre, autant du point de vue scientifique que confessionnel. Il fut un des traducteurs du Rameau d'Or, mais on sait très bien qu'il était vraiment très très critique face à un comparatisme démesuré à la Fraser. En plus, on sait presque rien sur sa vie privée, ce n'est pas seulement le cas pour nous, mais c'était aussi le cas à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui est, disons, le plus neutre, et ça explique aussi pourquoi toutes les voix du camp Loisy ne sont pas allées à Mauss en seconde ligne, mais à Toutain. Puis Maurice Verne, il nécessite point d'introduction, j'imagine, grand expert en religion d'Israël, et les sémites occidentaux. Et puis, bien sûr, Marcel Mauss, je ne vais pas y arrêter, mais je vais surtout vous parler de l'image publique d'abord que Loisy avait en 1908. Cette exégète biblique, il est très facile à reconnaître parce que c'est le seul professeur ici qui ne regarde pas aux caméras. Donc, c'est Loisy là, avec la petite flèche. Donc, il est connu surtout comme exégète biblique et spécialiste du christianisme primitif et du judaïsme ancien. Un défenseur ardent de l'histoire critique contre toute intrusion théologique. Mais il avait publié aussi plusieurs ouvrages comparatifs sur les liens entre l'Ancien Testament et les religions assyriennes. Il était l'élève d'Oper. Il faut préciser que ces études-là, donc ces études comparatives, étaient en général peu connues. Donc dans l'opinion publique, Loisy était un exégète et peu qualifié pour la chaire d'histoire des religions, donc l'étude comparée des religions. Une analyse de ses écrits modernistes, comme par exemple l'Évangile et l'Église, démontre par contre que sa méthode historique était ouverte à un comparatisme prudent, mais il faut le bien souligner, le christianisme, ça reste le alpha et l'oméga de toutes ces recherches-là. Bien que Loisy démontrait là ou manifestait un antiprotestantisme assez virulent, on peut dire somme toute que sa méthode comparative avait des ressemblances avec la méthode des Révilles, sauf l'attention pour la psychologie religieuse, que pour Loisy n'est pas le moyen ou n'est pas vraiment le chemin à suivre dans ses études. Du point de vue religieux, Loisy avait bien sûr l'image d'un catholique convaincu, mais mis en dehors de l'Église contre son gré. Et dans une lettre d'au début de sa campagne, il lui-même notait « Peut-être ma candidature aurait-elle besoin de vaincre à droite et à gauche certains préjugés dont elle ne se triomphera pas facilement. Il est assez évident qu'elle a un caractère purement scientifique et que je ne suis l'apologiste ni l'adversaire d'aucune religion, à commencer par le catholicisme. Certains ont l'air de me prendre pour un théologien, provisoirement exclu de l'Église par une erreur de pietisme. » Dans ses années au collège, Loisy va durement attaquer l'institution catholique et largement abandonner sa foi catholique, mais sa nouvelle philosophie religieuse sur la religion de l'humanité en restera toujours profondément imbue. Retournons à 1908. Comme il l'avait anticipé, Loisy fut rapidement invité à se présenter à la chaire d'histoire des religions. Certains, comme Louis avait, envoyèrent même leurs invitations le jour des funérailles de Jean Réville. Outre l'invitation du professeur de philologie latine, Loisy reçut des invitations de Gabriel Monod, qui occupait la chaire en histoire générale et méthode historique, de Joseph Bédier, chaire de langue et littérature française du Moyen-Âge, et deux autres professeurs sont très tôt des alliés importants, c'est Abel Lefranc et l'hispaniste Alfred Morel Fatio. Outre Loisy avait, tous ces professeurs du collège avaient un point capital en commun. Ils étaient tous des judistes, c'est-à-dire des réguliers du salon dans lequel la marquise Arconati Visconti réunissait chaque jeudi ses amis du monde politique et académique. Loisy a nié explicitement dans les mémoires qu'il devait sa nomination à cette grande dame de la vie intellectuelle et artistique parisienne. Mais sa correspondance avec elle, presque entièrement préservée, démontre très clairement qu'elle c'était elle, le centre nerveux, la directrice de la campagne, assistée par son amie de confiance, Monod, pour qui elle avait d'ailleurs fondé la chaire au collège. Qui était cette marquise? Elle a déjà été évoquée hier par professeur Maria, mais je vais quand même rappeler quelques points. Née Marie Peyrat, fils d'Alphonse Peyrat, un des pères fondateurs de la Troisième République, elle fut influencée par les convictions républicaines de son père. Elle a vécu sa jeunesse dans une relative pauvreté, mais sa situation précaire change lorsqu'elle se marie avec un noble italien, ami de son père, le marquis Gianmartino Arconati Visconti, qui décéda 2 ans après leur mariage et lui légua une fortune immense. Tout au long de sa vie, elle en fit un nombre exceptionnel de dons en faveur de diverses institutions d'art et d'enseignement. Et c'est cette fortune qui lui procurait une position de force dans les autres sociétés françaises. Pour notre propos, on a besoin d'attirer de l'attention sur quelques points, sur quelques 3 traits qui sont vraiment très importants. C'est son anticléricalisme résolu, un ami proche d'Émile Combes, et qui était aussi un judiste. Arconati était fervent partisan de la séparation. Ennemie virulente de l'Église et de qui elle appelle cette moule de Pidise, en plus est très fusarde, fanatique. Deuxièmement, la libre pensée strictement non religieuse de l'ange de l'athéisme, comme l'appelait ou le surnommait aussi Léon Gambetta, nonobstant la présence de plusieurs protestants dans son entourage, comme Gabriel Monod, mais aussi professeur Morel Fatio et même son compagnon de vie, Raoul Duseigneur. Troisièmement, une haine prononcée envers le socialisme, qu'elle considérait le pire des maux pour la République. Comme l'a déjà très bien démontré Gérard Ball, la marquise était amie avec Jean Jaurès au temps du bloc des gauches, mais à sa fissuration, elle se brouilla avec lui jusqu'au point même de souhaiter, je la cite, qu'il entre prochainement dans un train saboté. Le trouvant trop pacifiste, trop collectiviste, trop peu patriote, son amitié avec lui se termine mal. Et quatrième, son penchant pour les sciences historiques et sa foi vraiment très décidée en leur pouvoir hégémonique. Appelée Clio par ses amis, elle suivait des cours au collège à l'école du Louvre, auxquels elle fit des dons nombreux. Et son mécénat favorisait la construction d'une histoire conforme à son idéologie anticléricale. Last but not least, comme vous aurez déjà vu, son excentricité quand même, qui est essentielle pour expliquer l'ardeur de ses convictions. Donc Arconati était vraiment l'incarnation vivante de ses idéaux, misogyne, mais genre fluide, fier de sa position sociale, mais s'opposant au goût bourgeois, antisocialiste, mais soucieuse de l'éducation du peuple, aussi des filles, je dois le bien souligner. Elle est vraiment pleine de contradictions. Son salon de Judith était unique à l'époque, par cette union stratégique qu'elle assurait entre les mondes académiques et politiques. Et c'est là la clé de l'influence substantielle d'Arconati sur les univers masculins qu'étaient la politique et l'académie à cette époque-là. Parmi les hommes politiques, mentionnons Joseph Reinach, Combes, Aristide Briand, Henri Brisson et Jaurès, parmi les savants, voilà les professeurs déjà nommés, mais aussi les historiens belges, Frans Cumont et Henri Pirenne. Pour la marquise et son réseau, j'attire très volontiers votre attention sur la numérisation complète de sa correspondance passive préservée à la Sorbonne, que vous pouvez consulter ici, avec vraiment une très belle exposition virtuelle qui a été soignée par Madame Thérèse Charmasson et ses collègues. Autre outil intéressant, un peu plus près, pour moi du moins, c'est l'édition récente de la correspondance entre Alfred Loisy et Frans Cumont, parce qu'Arconati fut amie commune de ces deux savants et il est maintes fois évoqué. Donc, en ce qui concerne les convictions des judistes, soulignons au risque, je l'ajoute, de brosser un portrait trop uniformisant qu'il s'agissait d'un milieu républicain, libéral et bourgeois uni dans cette conviction d'être d'esprit d'élite. C'est une expression que j'ai retrouvée dans les lettres de plusieurs de ses membres, en partageant une vision humaniste, mais aussi largement idéaliste du monde, uni dans l'anticléricalisme, condition indispensable pour Arconati. Muni de toutes ces informations préliminaires, passons maintenant à l'analyse épistolaire. Le premier constat remarquable, c'est l'absence générale d'arguments proprement scientifiques en faveur de Loisy dans les lettres de ses partisans. Oui, Arconati souligne qu'il est le seul homme qualifié en France pour s'occuper de cette chaire, mais on cherche en vain des éloges de sa méthode ou des arguments en faveur de ses ouvrages. C'est chose assez bien étonnante dans le cadre d'élections qui sont si décisives pour le développement théorique de l'histoire des religions. Deuxième constat, la cible préférée d'Arconati, de Monod, de Bédier, de Cumont et les autres, ce n'est pas le candidat qui est idéologiquement le plus éloigné d'eux, c'est Foucard, le candidat du camp conservateur, mais c'est Mauss. L'énergie consacrée à critiquer Mauss est frappante, et les jeudistes sont aussi convaincus que leur critique est largement partagée. Je cite les mots de Morel Facio, « Il me paraît de plus en plus certain que la majorité des professeurs ira à Loisy, les uns par conviction et les autres pour éviter Mauss. » Troisième constat, lorsque Loisy tombe gravement malade à l'été de 1908, une lettre de Morel Facio suggère de supplier Loisy s'il est vraiment si gravement atteint. Je ne trouvais cette opinion que chez Morel Facio, mais il est clair que, du moins pour lui, l'Oisy était remplaçable. En ce qui concerne les motifs des judices, leur lettre confirme en effet qu'il n'y en a qu'un seul qui est positivement lié à l'Oisy. Les deux autres motifs, on va y revenir, semblent être surtout inspirés par le fait que l'Oisy n'était pas Mauss. La grande valeur symbolique de la nomination d'un excommunié à la chaire qui incarnait le programme de la laïcisation de la Troisième République représente le seul motif positif. Comme Combe l'écrit à Arconati, sa nomination est le coup le plus rude qui est asséné au pape et à son église depuis la loi de la séparation. Ou encore, Louis Havé, qui n'était pas un judiste, je dois l'ajouter, il écrit « Il y a un lien logique entre la question de l'Oisy et l'œuvre dont je serais heureux d'être autorisé à vous parler à votre retour. Il s'agit de faciliter aux jeunes prêtres la sortie de l'Église et sont des centaines qui ne demandent qu'à devenir des citoyens utiles. » Concernant le rôle de l'anticléricalisme, la correspondance nous permet vraiment d'approfondir notre connaissance des stratégies déployées par les judices pour atténuer les réserves présentées par d'autres professeurs anticléricaux à l'endroit vraiment de l'ex-prêtre. D'un côté, il fallait convaincre ses professeurs de gauche de ne pas voter pour Mauss, ce qui, à vrai dire, aurait été peut-être l'option la plus sûre en ce qui concerne la neutralité méthodologique dans les sciences religieuses. Et d'autre part, il fallait aussi assurer la bienveillance du ministre de l'Instruction publique, le républicain radical Gaston Doumergue, qui devait ratifier. Et de ce point de vue politique, l'affaire du père Schell, on a déjà parlé maintenant, fois, et l'intervention de Clémenceau, qui était alors président du Conseil, était encore fraîche dans tous les esprits du camp Loisy. Mais la marquise lui rassurait. Elle disait à Loisy, Combe, qui connaît bien Doumergue, me disait hier qu'en tout état de cause, il tendrait tête à Clémenceau. Si celui-ci faisait pour lui ce qu'il a fait pour Schell. Brisson se chargeait de Doumergue, tout ira bien. Seulement de ceci, pas un mot à personne. Il faut éviter que votre nomination prenne une tournure politique. Brisson, qui est venu me voir ce matin, me l'a dit aussi. Je tiens ici à souligner que Loisy lui-même ne comprenait guère les soucis liés à cette assimilation potentielle de son cas avec celui de l'assyriologue dominicain. Avec un manque vraiment total d'introspection et avec une arrogance assez sans gêne, il écrivit une lettre à Arconati qu'il importe citer ici in extenso. « Je n'aurais jamais pensé, il écrit, que mon cas pût être assimilé à celui du père Schell. Cet élu du collège était membre d'une congrégation non autorisée. On savait qu'il était sécularisé pour la forme seulement, il que relevait toujours du général des dominicains. Il était donc prêtre et religieux. » Et plusieurs de ses partisans, surtout à l'Académie des inscriptions, n'avaient voté pour lui que pour ce motif et que pour mettre le gouvernement dans l'embarras. Actuellement, je ne suis même plus catholique, Pidis l'a déclaré, et même les catholiques sont tenus de me fuir. Il serait piquant et assez absurde que notre gouvernement vînt dire au pape « Pardon, sainteté, nous considérons toujours Loisy comme catholique orthodoxe et comme prêtre. Nous le regardons comme votre sujet fidèle et pour cette raison, nous ne voulons pas l'admettre au collège. Il serait impossible de faire au pape une plus grosse injure et un plus grand plaisir. » Si l'équipe Loisy ne voulait prendre aucun risque et mettait au travail Combe et Brisson, c'était en fait aussi à cause de l'Académie des sciences morales et politiques, où il craignait vraiment l'influence étendue de Paul Foucard, en dépit du soutien d'Henri Bergson et d'Arthur Chuquet pour Loisy. Ces craintes s'avéraient fondées parce que le comité qui était indiqué pour se prononcer sur cette question-là, donc de l'Académie, refusait en effet de ratifier la nomination de Loisy et a nommé Georges Foucard à sa place. Ajoutons aussi que la marquise n'avait pas peur d'utiliser des moyens plus méchants pour convaincre les sceptiques anticléricaux. Je me limite à un seul exemple qui concerne Émile Levasseur, l'administrateur du collège à l'époque, savant polyvalent spécialisé dans les soirs économiques. Levasseur était une des connaissances de la marquise et elle le savait, et je la cite, « comme moi, libre penseur, le pasteur, le prêtre, elle lui écrit à Loisy, lui font un peu peur en tant que professeur. » En concertation avec Monod, elle va envoyer des ouvrages à Loisy, de Loisy, mais elle ne va pas s'arrêter là. Dans plusieurs lettres, elle va menacer Levasseur de supprimer les legs promis au collège si Loisy n'est pas élu. Et sans aucune ironie envers elle-même, elle dit « J'espère pour le collège que tout va se passer bien, car si vous n'étiez pas nommé, si d'autres considérations que les sciences faisaient agir les professeurs, je vais lui retirer le million que je lui donne dans mon testament. » Dans ses lettres à Loisy, Arconati manifeste vraiment une grande confiance envers les convictions idéologiques de Loisy, mais dans plusieurs lettres, entre et à ses judistes, on voit parfois apparaître une inquiétude quant à son passé catholique. Or, cette même inquiétude qu'il voulait dissiper parmi les autres professeurs de gauche du collège. Tout cela est conjugué au fait que Maurel Fatio était prêt à supplier Loisy, laisse présumer que la raison principale de leur soutien se situait ailleurs. Les motifs négatifs de leur soutien sont plus difficilement repérables, mais ils sont bien là et on les retrouve dans les fréquentes expressions d'hostilité envers Mauss. Il y a trois types d'hostilité. Le premier dirigé contre les convictions politiques et la personnalité de Mauss, qui est représenté comme un anarchiste dangereux, un farceur bavard et paresseux. Le deuxième dirigé contre la sociologie, qui pour Arconati et peut-être aussi pour d'autres, rien d'autre que du socialisme camouflé. La candidature de Mauss est considérée une tentative transparente de propager les idéaux socialistes d'un petit groupe d'anarchistes. Et le troisième, plus subtil, une certaine réticence envers l'identité juive de Mauss. En ce qui concerne la critique politico-scientifique, je ne peux que citer le même passage qui a déjà été évoqué hier. Je ne vais pas la lire, mais voilà, on le dit, de Mauss, très intelligent, écrit Monod, mais c'est un sociologue beaucoup plus qu'un historien, et l'histoire des religions doit être traitée de point de vue historique. C'est une opinion qui est partagée aussi par exemple, Franz Cumont, et qui a pour toile de fond le lien profond qui existe d'une part entre leur histoire positiviste, voire non sociologique, laquelle favorisait l'étude de la vie religieuse intime, et d'autre part une vision de vie et une conception du monde profondément individualiste, lesquelles est vraiment typique pour les protestants qui étaient intégrés dans les réseaux de la marquise et des libres penseurs bourgeois comme Cumont. Tandis que la lettre de Monod ne relie pas explicitement la sociologie et le socialisme, la marquise ne va pas hésiter à l'interpréter dans ce sens-là, dans plusieurs autres lettres qu'elle a écrites sur le sujet. Et on sait d'ailleurs par des lettres d'Émile Durkheim qu'en ce qui concerne la candidature de Mauss, le camp Loisy propageait vraiment activement des rumeurs sur le chevauchement complet entre science, écrit avec majuscule, et socialisme. Et dans une lettre, par exemple, à Salomon Reinach, Durkheim déplorait ce cours d'événements et dit vers la fin « Il serait pourtant extraordinaire que la qualité de moine ou de pasteur protestant ne fût pas une objection pour Monod, mais que seul c'est de socialiste disqualifier cet homme. » Avant de passer à la dernière question, la question de l'antisémitisme, notons aussi que l'antisocialisme d'Arconat et des siens est complètement absent chez Loisy, qui a déclaré à plusieurs reprises « Je n'entends rien à la politique », ce qui lui a valu aussi les critiques d'Arconat, qui va plus tard écrire à Cumont « Loisy se fout de la République comme moi du pape ». Dans ses lettres à Arconati, Loisy fait une évaluation critique des essais fondateurs de Mauss et du Père, mais son analyse, il faut vraiment l'admettre, c'est intellectuellement honnête. C'est pas vraiment, c'est pas ce même condescence qu'on a envers l'identité idéologique de Loisy. Et dans le livre qui vient de sortir, j'ai essayé de démontrer qu'en fait, les liens entre Loisy et l'école durkheimienne deviendront beaucoup plus forts de ce qu'Arconati et les judistes n'auraient su être en 1908. Chez Loisy, le non-conformisme et l'indépendance intellectuelle étaient des caractéristiques déterminantes, les pendants parfaits de son ironie caustique et de son égocentrisme. Lorsque le professeur nouvellement nommé décide de consacrer ses premiers cours à l'étude comparative du sacrifice, la pomme de discorde à ce temps-là, c'est exactement dans le but de montrer cette indépendance d'esprit absolue. Finalement, je veux attirer votre attention sur le point le plus délicat de l'analyse épistolaire, à savoir le rôle d'une animosité envers l'identité juive de Mauss. Rappelons que le salon de la marquise incluait plusieurs de ses amis juifs, comme Joseph Reinach, son frère, l'historien des religions Salomon, mais aussi Alfred Dreyfus et l'avocat Ferdinand Dreyfus, qui était l'exécuteur testamentaire de la marquise à cette époque-là. Et néanmoins, on observe assez bien la présence de quelques réserves envers les étoiles montantes de savants brillants comme Mauss. Et ces réserves, je veux bien insister, je les ai seulement trouvées dans les lettres d'Arconati Visconti, donc de la marquise, et de Combes. En analysant ce facteur déterminant, nous devons distinguer à nouveau entre deux formes d'hostilité. La première concerne la personne de Salomon Reinach. Reinach était une connaissance personnelle de Loisy depuis ses années à l'Institut catholique et un ami proche d'Arconati. D'un point de vue idéologique et social, il s'accordait très très bien avec le réseau d'Arconati, mais en ce qui concerne sa méthode, il se sentait lui-même plus affilié à l'école durkheimienne, mais ce sentiment n'était pas mutuel. En outre, nous savons que par les études d'Hervé Duchesne, que Reinach s'engageait vraiment beaucoup pour la solidarité juive avec une participation active dans l'alliance israélite. Mais c'est donc assez tôt dans la campagne de Loisy qu'on note une hostilité grandissante des judistes envers Reinach, parce qu'il ne soutiendrait pas Loisy, mais son cours religionnaire. Citons cette lettre de Loisy, où Loisy dit explicitement que Reinach ne voulait pas le soutenir, numéro un, parce que Mauss est israélite. Et l'indignation d'Arconati en lisant cette lettre était telle qu'elle va immédiatement rendre visite à Reinach pour lui confronter. Et elle dit après à Loisy, il ne nous aidera pas. Il ne fera rien contre vous, mais il ne fera rien contre le socialiste unifié. Dans une autre lettre, le ton est beaucoup plus aigu. Là, elle dit que le manque de soutien de Reinach est seulement, uniquement, parce que ce farceur de Mauss est juif. Et Salomon sait très bien la différence qu'il y a entre un pou et un lion. Et Arconati va utiliser la même image du lion et du pou qui vient de vers de Victor Hugo pour d'autres rivaux, donc pas seulement pour Mauss, mais quand même l'animosité est frappante. Finalement, je conclue, parce qu'on peut dire que cette animosité envers l'israélite était seulement le résultat d'une déception personnelle. Pour Loisy, probablement oui. Pour Arconati, je pense que non. Ici, enfin, on doit vraiment mentionner une lettre écrite par Combe à Arconati et après copiée par Arconati à plusieurs des autres juristes. Et voilà ici le passage. Il s'agit d'un rapport de Combe sur ses démarches auprès de Dumergue. « Je souhaite vivement, comme vous, écrit Combe à Arconati, que Loisy soit sélectionné à la chaire de l'histoire des religions au collège, mais si j'en avais eu l'espoir très fondé il y a 2 ou 3 ans, je ne l'ai plus au même degré aujourd'hui. Le caractère de Dumergue en raison des quelques nominations sémites ne m'offre plus les mêmes garanties de fermeté républicaine qu'auparavant. » Je n'ai pas le temps, voilà, d'insister plus sur cette correspondance. Je veux juste attirer votre attention sur une lettre entre Cumont et entre Loisy, où Loisy offre son chair à l'histoire, au collège à Cumont lorsqu'il est vraiment en grande difficulté à cause d'une nomination ratée par le ministre de l'Éducation publique en Belgique qui ne voulait pas nominer Cumont à l'université de Gand. Et Loisy disait « Si vous étiez français, vous auriez ma chair avant 10 ans, soit que je vive, soit que je meure. » Et Cumont lui répond « Merci de vos souhaits, mais vraiment gardez-vous d'abandonner votre chair et de mourir, parce que vous seriez remplacé par un sociologue fumeux. » J'espère avoir vous démontré qu'il y a beaucoup plus en jeu ici que seulement l'histoire. La nomination de Loisy, c'est le résultat d'un entrecroisement assez complexe entre personnalité, amitié personnelle, facteurs idéologiques, mais aussi peut-être l'antisémitisme, pas peut-être, certainement pour Arconati, c'est moins clair pour les autres membres de son réseau. Je vous remercie.